Vous écoutez
RMC. RMC, les grandes gueules du sport. 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
10h07 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci beaucoup de votre fidélité en direct, mais également en podcast. Nous venons de battre un nouveau record au mois d'octobre. C'est grâce à vous, évidemment. Merci d'être avec nous. Et n'hésitez pas à aller télécharger la première heure si vous l'avez manqué. À 9h, nous évoquions la victoire difficile, mais une victoire tout de même du 15 de France face à l'Australie. Une petite ou une grande victoire. Le débat assez houleux, assez mouvementé. C'était à 9h. Et si vous voulez en reparler, ce sera à 11h40 avec vous. Vous composez le 32-16. Toujours avec Simon Dutin, Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Stephen Brun. Dans quelques instants, nous allons passer la seconde autour d'Igor Tudor. Joue-t-il sa tête ce soir face à Lyon? 10h30, un homme en colère. Pierre Amiche veut nous parler du report de la route du Rhum qui devait s'élancer aujourd'hui. Et puis 11h, le bras de fer des GG. C'est le Money Time pour Fabio Quartararo, le dernier Grand Prix MotoGP de la saison. La donne est claire, il faut gagner et que Francesco Bagnaia termine hors du top 14. Je ne parle pas de rugby, évidemment. Il y aura une team, j'y crois, une team, j'y crois pas. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter des grandes gueules du sport. Antoine de Rivarol a dit un jour, les rois continueront à perdre la tête tant qu'ils porteront la couronne sur les yeux plutôt que sur le front.
RMC. Les grandes gueules du sport passent la seconde.
0-0, on le joue rapidement. De temps.
Oui. Et là voilà.
Avec la taille, de la part de Clément Langlais, l'égalisation.
Qu'est-ce qui vous arrive encore?
Je ne sais pas, je m'enfonce.
Ah, il est bon ce soir.
Et vous vous enfoncez sans réagir?
Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les sables mouvants.
Allez, il faut l'accompagner.
C'est pas vrai. Et le Havre a perdu. Comme j'ai dit, il y a eu une grande incompréhension sur le terrain. Bien sûr qu'on voulait pousser pour aller en huitième de finale. Il n'y a pas eu une assez bonne communication et on paye cash ce soir.
C'est pas son jour, dites donc.
C'est jamais son jour.
Le bon moral sur les chaussettes.
Merci à Suzanne Folli pour la production sur l'Olympique de Marseille. Il a donc fallu 2 semaines à Igor Tudor pour épuiser une bonne partie de son crédit acquis depuis le début de la saison. 3 défaites, 1 nul en 10 jours. Et surtout, vous l'avez entendu, cette élimination de toutes les compétitions européennes cette semaine après une fin de match hallucinante face à Tottenham. Tout va très vite dans le football, paraît-il, à Marseille plus qu'ailleurs. D'autant que l'OM affronte 2 concurrents directs, Lyon ce soir et Monaco, la semaine prochaine avant la trêve Coupe du Monde. La musique qui fout les jetons et cette question. Igor Tudor, joue-t-il sa tête ce soir, oui ou non? Stephen Brun.
Non.
Pascal Dupraz.
Oui, à très court terme.
Hein?
Simon Dutin.
Non.
Sarah Pitkowski.
Eh ben non aussi.
J'ai un oui, j'ai un non avant de débattre. 3 noms, pardonnez-moi. On retrouve notre correspondant à Marseille, Florent Germain. Salut Florent. Vendredi, en conférence de presse, pour la première fois, Igor Tudor a fait son mea culpa.
Oui, c'est vrai, mais c'est un petit mea culpa, n'exagérons pas. C'est uniquement concernant le coaching donc contre Tottenham, parce que Igor Tudor a reconnu, c'est vrai, c'était vendredi en conférence de presse, bon, qu'il n'a pas forcément été très inspiré dans ses changements mardi en Ligue des Champions.
Riguardando la gara, l'ho sbagliato.
Je pense avoir fait une erreur. Je pense que Payet aurait dû jouer au moins un quart d'heure mardi soir. On fait tous des erreurs. Klaus aussi aurait dû rester sur le terrain. Il aurait pu marquer. Il faut que je fasse mon autocritique. Mettre Suarez à la place de Payet, j'aurais pu faire un changement différent.
D'ailleurs, précisons que ce n'est pas la première fois que le coaching de Igor Tudor est dans le viseur. L'OM ne marque plus en deuxième période depuis 7 matchs. C'est quand même beaucoup. Et les dirigeants eux-mêmes, on peut vous confirmer l'info, n'ont pas toujours compris les choix de leur entraîneur ces dernières semaines. Par son management, Igor Tudor a peut-être perdu aussi certains Olympiens. Alors, est-ce le moment pour relancer Dimitri Payet, puisqu'on parlait de lui? Écoutez le numéro 10 de l'OM, qui garde le moral et qui surtout ne veut pas se plaindre.
À chaque fois que je suis passé par des moments où je jouais moins, j'ai travaillé pour regagner ma place. Et c'est pas aujourd'hui, à cet âge-là, que je vais aller me plaindre à mes dirigeants. Si je suis à mon niveau, si je suis décisif, je pense que le coach est pas fou. Si tu fais gagner les matchs, il va forcément te mettre.
Et ton avenir est à l'OM.
Ah, ça changera pas. Et c'est pas aujourd'hui que je jetterai l'éponge.
Et d'ailleurs, ce match contre Lyon, il est primordial pour vérifier que tous les joueurs sont dans le même état d'esprit, car il y a un épisode qui a quand même laissé des traces mardi, c'est la gestion de la fin de match contre Tottenham. Les joueurs, on le rappelle, en veulent à Igor Tudor de ne pas les avoir prévenus qu'un match nul les envoyait en Ligue Europa. Tudor n'a pas assumé cette erreur vendredi en conférence de presse. Il a plutôt chargé la manière de défendre de ceux qui étaient sur la pelouse. Voilà, c'est pour ça que je vous parlais d'un petit mea culpa et qu'en ce sens, le match de ce soir contre l'OL est un révélateur pour savoir si l'OM a vraiment tourné la page.
Merci beaucoup Florent Germain pour toutes ces précisions. N'hésitez pas à réagir à ce débat, le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Igor Tudor joue-t-il sa place ce soir? Stephen Brun, c'est non, pourquoi?
Alors déjà, je veux dire qu'il y a quand même Pascal Le Vautour, hein, qui lui souhaite que Tudor soit viré, parce que même s'il prend son pied dans les grandes gueules du sport, il prendrait bien un petit job sur le banc de touche de l'Olympique de Marseille.
Je te répondrai, je te coupe pas.
Non, pourquoi? Parce que déjà virer Tudor, ça voudrait dire que c'est une décision qui vient de Pablo Longoria. Ça veut dire donc que Pablo Longoria affiche aux yeux de l'Europe du foot que lui-même s'est trompé, parce que c'est le choix du président de l'OM. Et rappelez-vous au mois d'août, quand il y avait le feu sur la préparation, où les joueurs étaient très surpris que Tudor soit un petit peu de poigne. Convocation, conférence de presse. Longoria arrive, il dit écoutez-moi bien, Tudor il est là. Ceux qui sont pas contents avec le management d'Igor Tudor, merci, au revoir. Seul de tout compte et bonne chance pour la suite de votre carrière. Donc je crois que Longoria lâchera pas Igor Tudor. Et ce qui me fait dire que Tudor a un bail un peu plus long terme à l'Olympique de Marseille, c'est que la différence, parce qu'il y a un autre coach qui s'appelle Peter Bosch qui a été évincé de l'Olympique Lyonnais, c'est que l'Olympique de Marseille, malgré tout, joue bien au football. J'y sais. Ils font des matchs cohérents. À Lyon, c'était n'importe quoi. Ils jouent bien au foot, l'Olympique de Marseille. Alors, parfois, ils jouent bien que 45 minutes. Mais sur des matchs de Champions League, on voit après qu'ils sont un petit peu cuits sur la deuxième mi-temps. Il n'y a pas de crise dans le jeu à l'Olympique de Marseille. Ils perdent des matchs. Hein, ils mènent 2-0 contre Strasbourg. Ça fait 2-2. Contre Lens, ils perdent 1-0 sur une frappe contrée. Alors que... Il n'y a pas de crise dans le jeu.
Il n'y a pas de crise dans le jeu, mais on a senti une petite fracture avec cette fin de match entre les joueurs et le coach.
Oui, mais la fracture, ça me fait rigoler les gens qui disent il est scandaleux, il aurait dû tenir au courant les joueurs pour préserver une qualification en Europa League. Mais peut-être que s'il n'avait pas joué le coup jusqu'au bout et qu'ils avaient préservé le score pour être en Europa League, on serait tombé sur Tudor pour dire mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est frileux, il ne veut pas aller chercher la qualif en 8e de finale. Kolasinac, il a une tête à deux doigts à la 87e pour aller en 8e de finale, il est champion. Et vous voulez que Tudor, ils disent non, on défend pour assurer l'Europa League.
Je ne parle pas des observateurs, je parle des joueurs qui ont reproché à Tudor de ne pas savoir.
Mais parce que justement, il ne voulait pas mettre le doute dans les joueurs, il voulait continuer à pousser parce qu'il a vu une occasion de Kolasinac à la 87e et dit on est dans le bon sens, on va y aller, on va aller l'accrocher.
Calme-toi, Stephen, t'as raison.
Pascal Duprat.
Pourquoi je m'énerve d'ailleurs?
On n'est pas certain que les joueurs n'aient pas été informés. On
n'est
pas sûr. On n'en est pas sûr. Bon, tout ça pour dire que c'est vieux comme le monde. Par contre, dès que tu perds, l'entraîneur, il est seul au monde. Donc les joueurs contestent. Celui qui conteste le moins, c'est tout à son honneur, c'est Payet. Ok, parce que Payet, il dit rien, il reste tranquille, serein, et il attend son heure, il bosse. Par contre, j'ai entendu tout à l'heure notre collègue qui parlait de Longoria et des dirigeants qui commençaient à s'interroger sur les choix de Tudor. Mais rien de mieux pour le mettre en difficulté que de le contester ses choix.
Parce qu'on n'a pas fait la casette à Lyon, par
exemple. Ce qui me fait dire que Tudor est sur un siège éjectable. Donc quand j'ai dit tout à l'heure que oui, le match de Lyon va être déterminant pour lui, parce qu'ensuite il y aura le match de Monaco, comme tu le disais, JC, dimanche prochain. Et si d'aventure, l'OM venait à perdre ces deux matchs-là, ça ferait quand même beaucoup. Ça ferait 9 matchs sans victoire pour l'OM. Et surtout, ça ferait 6 matchs en Ligue 1 sans victoire. Ça ferait 1 point sur 18. Donc à partir de là, la position serait intenable. Alors je suis d'accord aussi avec toi, Stephen, parce que tu dis que Longoria, c'est lui qui l'a choisi et que Longoria, il le soutient. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'au-dessus de Longoria, il y a McCourt, il y a celui qui paye. Et au bout d'un moment, il va en avoir marre. Sans compter sur le public qui va se mettre à hurler. On sait qu'à Marseille, le public a une grande importance. Tant il est grand, tant il est fort et tant il sait se faire entendre. Donc tout ceci pour dire qu'un entraîneur, quand il n'a pas de résultat, eh bien, il est toujours menacé. Et Tudor n'échappe pas à la règle, malheureusement.
Et on laisse évidemment Pascal Duprat aller à la messe, car c'est l'heure de la messe et on entend derrière lui les cloches. Hein. Il n'est pas avec nous physiquement, notre ami Pascal. Donc tu peux y aller, mais tu reviens vite, tu prends l'hostie et puis tu viens. Voilà, exactement.
Il va peut-être mettre un cierge pour. pour Tudor, non ?
Ou peut-être pas quand même.
Oui.
Pour l'OL.
Non, mais en fait, oui, là encore, c'était la boutade du jour me concernant, ou une des boutades du jour me concernant de Stephen. L'OM, c'est un club magnifique. N'importe quel entraîneur français rêverait d'entraîner l'OM.
Mais
j'ai perdu mes illusions concernant ces clubs-là. Non, mais l'OM, c'est un club extraordinaire. Et parce qu'il est extraordinaire, aussi, ça renforce, eh bien, ma position, à savoir, Tudor est en difficulté. Il faut absolument que l'OM gagne contre Lyon pour dissiper les doutes.
Ok, dissiper les doutes. Sinon, à court terme, comme tu le disais, il est franchement menacé. C'est ton avis. Simon Dutin.
Je pense que la vision qu'on a, elle est un petit peu tronquée par effectivement l'excellent début de saison, même au-delà des espérances de l'OM, qui a longtemps été avec le même nombre de points ou juste un point de retard sur le Paris Saint-Germain. Début de saison d'autant plus spectaculaire que Stephen l'a rappelé, l'avant-saison avait été un petit peu catastrophique. On s'inquiétait, on se demandait si Tudor allait tenir 2-3 matchs. Je pense que, alors certes, il y a cette mauvaise série, mais et Pascal va me dire que c'est jamais bon signe, mais malgré tout, il a été conforté par la direction qui nous a assuré.
Oui, mais c'est jamais bon signe, je suis d'accord avec Pascal.
C'est jamais bon signe, mais bon, en même temps, tu prends toujours le risque de te ridiculiser si dans la semaine tu dis l'entraîneur il n'est pas menacé, et si tu dis.
Ça n'a jamais empêché.
Non, mais alors moi je prête à Ribalta et Longoria avec leur parcours et leur sérieux, je ne sais pas, des façons de fonctionner qui sont un petit peu différentes de ce à quoi on a été habitué ces dernières saisons en Ligue 1.
Il y a des fêtes ce soir pour l'OM, ce qu'on n'espère pas pour l'OM. Olympique de Marseille,
Ils seront toujours à un point devant. Je te dis pas que ça va améliorer les affaires de Tudor s'ils perdent ce soir, mais ils ont un point de plus que la saison dernière après 13 journées. Et à l'époque, Sampaoli était encore sanctifié. On vendait des reliques du technicien argentin dans Marseille, et c'était un dieu vivant. Donc effectivement, là encore une fois, il y a cette série. Tous les adversaires de l'OM font remarquer que l'OM joue très bien. Le Vélodrome est toujours à guichet fermé. Il le sera encore une fois ce soir. C'est important, effectivement. C'est quand même un des décideurs aussi, le public du Vélodrome. Alors il va pas falloir non plus que ça dure. Je pense qu'il va falloir qu'il change un tout petit peu aussi son équipe type, parce qu'au Vélodrome t'as besoin d'entretenir cette passion pour les idoles, et quand tu laisses le patron sur le banc, Payet, mais que t'arrives pas à faire émerger un autre genre Sanchez qui est utilisé un peu à contre-emploi, je pense qu'il prend un risque. Il a lui-même sorti son propre extincteur parce qu'il commence, on l'a souligné, à faire un petit peu son autocritique. Voilà, je pense qu'effectivement, ils vont lui laisser, comme Peter Bosz à l'OL, ils vont lui laisser au moins faire une saison sur le banc de l'OM. Je l'espère pour lui, en tout cas, pour l'OM.
Pascal, tu voulais réagir, et après Sarah.
Non, ça pourra pas aller jusqu'à la fin de saison si ça dure comme ça dure. Mais à sa décharge, alors certes, Alexis Sanchez a eu une mi-temps ou 45 minutes dans les jambes, mais il manque de solutions offensives. Et malheureusement, eh bien, les entraîneurs, eh bien, ils doivent faire sans. Et Tudor, il doit trouver les solutions sans véritable numéro 9, sans véritable attaquant, sans solution de rechange.
Pascal, là, pour le coup, je suis pas d'accord avec toi, parce que des solutions offensives, non, mais il en a. Alors, si tu me parles de vrai numéro 9 comme Milik, ok, là, on peut discuter.
C'est bien dont je parlais.
D'accord, ok, parce que j'y suis.
Pas de numéro 9.
Oui, enfin, il n'est pas obligé de mettre Guendouzi limite en 10. Il a d'autres armes quand même.
On tombe sur Tudor, mais on va pouvoir faire le procès de Longoria aussi, parce que Tudor, il va pas lui dire, écoute, mon grand, t'es gentil, mais pourquoi vous avez prêté Milik à la Juventus de Turin alors que ça aurait été très bien avec Sanchez? Pourquoi vous avez pris pour 12 millions Luis Suarez qui met pas un pied devant l'autre? Tudor, il peut avoir des griefs contre Longoria, donc Longoria, à un moment donné, il va être exposé. Hein.
Mais oui, mais parfois sur les homonymes, on peut se tromper. Moi, Luis Suarez à 12 millions, je le prends. Voilà. Sauf que
il a fait ses
chicots, pas devant. Sarah Pitkowski, et vous êtes nombreux à nous appeler. On accueillera Grégory, supporter de l'OM, au 32-16 dans quelques instants.
Je vais juste apporter un petit point qui correspond à souvent mes prises de position qui sont très pécuniaires, mais on sait que l'OM a choisi Tudor en lui proposant un salaire qui est de la moitié de Sampaoli, et que si il s'en sépare aujourd'hui, il y a quand même un gros chèque qui sera à sortir là tout de suite, qui serait pas loin de 2,5 millions, voire peut-être 3 millions avec les indemnités. Donc je me dis, ils vont lui laisser un petit peu de temps, parce que voilà, alors pour le PSG, un 2 millions, 3 millions, c'est rien du tout, mais je pense que pour l'OM, ça fait ça se réfléchit, et comme ils ont été chercher un entraîneur avec un salaire bien moindre, c'est qu'il regarde aussi les finances du club. Donc voilà, c'était le petit point que je voulais apporter, okay, qui dit que peut-être qu'il a encore quelques semaines
à tenir. Le petit point budget, c'est important.
Le petit point budget, oui, oui, c'est toujours budget. Important.
Non, et puis, il va falloir, alors je sais que c'est un club particulier, mais est-ce qu'on ne peut pas apporter un peu de stabilité dans ce club? Quel est l'intérêt de changer Igor Tudor? Ça veut dire que ça ferait cinquième coach viré en 6 ans. Moi, à un moment donné, un peu de stabilité, ça fait du bien. Regarde, le meilleur exemple, c'est Arsenal. Quand Arteta arrive fin 2019, début 2020, Arsenal ne met pas un pied devant l'autre. Arteta, elle arrive, ils ne mettent pas un pied devant l'autre avec Mikel Arteta. Aujourd'hui, ils sont leaders de Première Ligue ou deuxième parce qu'ils ont un match en retard.
On nous sort le même argument pour Peter Boss. C'est exactement le même argument.
Ils ont attendu. Ouais, au moins, ils ont
attendu. Il a fait une saison complète, Peter Bosch, et là, il a fait une frappe mémoire.
Donc, ils ont attendu. Mais au bout d'un moment, quand ça ne vient pas, donc soyons patients un peu avec Igor Tudor. Aujourd'hui, okay. Arsenal, ils sont contents d'avoir laissé Arteta. Ils sont leaders de Première Ligue.
Grégory, avec
stabilité,
nous.
Ça fait pas de mal un peu, Jean-Christophe.
Oui, bah dans l'émission des grandes gueules du sport, je suis d'accord avec toi. Il faut laisser l'animateur s'installer. Pour les bandes touches, c'est peut-être différent. Grégory nous appelle au 32-16. Salut, Grégory.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir.
Bonjour. Allez, Greg.
Bah, merci de nous appeler. Que... Alors pour toi, il joue sa tête ou pas, Igor Tudor?
Pour moi, oui, parce que comme le disait tout à l'heure Pascal, ça peut pas durer comme ça trop longtemps. On en sera à 7 ou 8 matchs sans victoire, en comptant éventuellement une défaite ce soir et puis celle de la semaine prochaine contre Monaco. Ça va faire beaucoup trop. Mais on entend... Enfin, Igor Tudor, c'est le stéréotype de l'entraîneur qui n'a pas suffisamment d'envergure. C'est d'ailleurs sur votre chaîne que l'on a entendu sur Rotten sans flamme. Je ne sais pas si c'est Jérôme Rotten qui le disait ou bien un auditeur. Peu importe, parce que de toute façon, ce qui a été dit est vrai. Donc, peu importe. À savoir que Igor Tudor ne sait pas lire un match. Pour preuve.
C'est Jérôme Rotten qui disait ça.
Eh ben voilà, eh ben merci à Jérôme parce que c'était très bien dit. Eh ben, pour preuve, il sort Guendouzi contre Francfort. On se demande encore, et même Eric Dimeco se demande encore, comment est-ce qu'il a pu sortir. Ensuite, il sort Jonathan Clauss contre Tottenham. Il fait rentrer Kolasinac, qui, à part faire des fautes, Kolasinac, il n'est pas dedans du tout. Il fait rentrer Issa Kabore. On a toujours le problème Nuno Tavares, qui conduit très mal sa balle. Et, enfin, en fait, on entend que le champ lexical de l'entraîneur qui n'est pas dans une situation confortable. En tant qu'entraîneur, il y a des choses qu'il ne sait pas faire, il y a des choses qu'il ne voit pas, parce qu'il n'a pas assez d'envergure, parce qu'il n'a pas assez d'expérience. Et de toute façon, la Ligue des Champions, c'est pas compliqué, hein. C'est soit t'as un entraîneur et des joueurs chevronnés, soit tu fais rien du tout. Et on l'a bien vu contre Tottenham. Une première mi-temps franchement superbe. Moi, j'étais heureux qu'on marque, qu'on mène 1-0. Cette équipe de Tottenham était complètement ravagé par l'OM, c'était super. On revient en seconde mi-temps, d'accord. Eh ben, plus rien. Donc déjà, qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire pour que les joueurs passent d'un super truc à un truc nullissime? Et je parlerai pas de la fin de match parce que
c'est encore trop tôt pour en parler pour toi. J'ai compris.
Oui, mais c'est de la frustration. La frustration, c'est un sentiment qui est très difficile à vivre quand vous êtes supporter. Je pense que même un entraîneur. C'est pareil pour lui. Mais pour en revenir à Igor Tudor, pour moi, il joue sa tête. Ce soir, s'il perd contre Lyon, non seulement il aura perdu contre Lyon, aux yeux des supporters, c'est pareil que de perdre contre le PSG, d'accord ? Mais en plus de ça, si vous regardez bien, sur les 6 ou 7 derniers matchs, on joue 3 grosses équipes. On peut même compter Lens comme grosse équipe. On peut la compter, cette équipe de Lens. Elle est magnifique. Donc, on perd contre eux. On perd contre le PSG. Et on perd contre Tottenham. Et on peut même rajouter Francfort, qui est quand même le dernier vainqueur de l'Europa League, si je ne me trompe pas. Et on a perdu aussi. On a perdu. Donc, à partir du moment où vous avez un entraîneur, d'accord, qui entraîne l'OM et qui perd tous ses matchs contre les plus grosses équipes contre lesquelles il a joué jusqu'à maintenant, eh ben, pour moi, il y a un truc qui va pas. Là, il y a une fracture, il y a quelque chose qui va pas du tout. Parce qu'on doit les gagner. Et comme le disait tout à l'heure, je sais plus lequel d'entre vous disait ça, peut-être qu'il restera parce que malgré tout, l'OM joue bien. C'est vrai de le dire. C'est vrai qu'il a du crédit de ce côté-là parce que l'OM joue bien. Mais il n'en demeure pas moins que c'est insuffisant.
Et il faut des résultats. On a bien compris, Grégory.
Et vous avez quand même été très tolérant avec Sampaoli, qui a quasiment pas gagné un match au Vélodrome l'année dernière. Ouais.
Juste rapidement, des choix qui interrogent, c'est ce que nous dit Grégory. Je voudrais juste entendre rapidement, mon cher Pascal, là-dessus. Le mea culpa d'un entraîneur, on l'a entendu concernant Dimitri Payet, c'est une bonne chose de faire son mea culpa quand on est entraîneur ou pas?
C'est difficile pour moi de répondre, voilà, comme ça, en tant qu'observateur.
J'ai presque envie de lui répondre, mais c'est tombé à coup de pas. C'était au moment du match.
C'est Bocchiette qu'on entend.
Non. Il fallait peut-être, je sais pas, prendre cette disposition sur le terrain pendant le match. Il me semblait, mais j'ai pas tous les tenants, les aboutissants. C'est pour ça que je voudrais répondre à l'auditeur. C'est trop facile de dire que l'entraîneur a pas d'expérience ou que l'entraîneur est pas bon. C'est facile aussi quand on est consultant ou quand on est journaliste de dire que l'entraîneur est pas bon. Il faut avoir été assis sur un banc, il faut connaître les problématiques de l'entraîneur pour savoir que c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que les entraîneurs sont très bien payés et c'est pour ça que les sièges sont éjectables. Donc encore une fois, je ne souhaite pas le départ de Tudor. Je réponds à une question, oui, il va être en danger si jamais il venait à perdre contre Lyon, c'est obligatoire.
Et ben voilà, c'est la loi. Compris. Et entre les lignes, j'ai compris que le mea culpa, c'était pas forcément la meilleure des choses à faire non plus quand on est entraîneur.
Pour moi, elle a pas de sens. En tout cas, pour ce cas-là, mais encore une fois, j'ai pas les tenants, j'ai pas les aboutissants. Dire après coup que j'ai eu tort, qu'ils le disent à ses joueurs, s'ils ont envie de le dire, mais je vois pas pourquoi le dire à la presse.
Ok, parfait. On va s'arrêter là-dessus. Juste une précision pour vous dire, une information, parce qu'on parlait de Dimitri Payet. La tendance, c'est qu'il soit sur le banc ce soir pour débuter la rencontre.
Ça ne m'écoute pas quand même.
20h45.
Oui, alors, évidemment, la tendance, c'est que Sanchez joue aussi un cran plus bas malgré tout. Et ça serait déjà pas mal.
Bamba est titulaire avec Sanchez. C'est un dispositif différent déjà.
Ok.